Ben oui, toi, le midi, et il est présentement midi. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102, c'est l'émission d'En Jase. Comme à chaque midi, on va tenter de vous informer, vous divertir et surtout de vous faire réagir. Et pour réagir, c'est justement le 418-971-1021. N'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et d'interagir avec vous. On est également disponible sur l'application Boulevard 102, la nouvelle application qui fonctionne à plein régime sur App Store et également Android, c'est Google Play Store. On est disponible via la web radio au blvd.fm et twitch.tv/blvd/fm. Donc, c'est les meilleurs moyens de nous écouter et de venir voir notre belle face en studio via le Twitch. Pascal CV, ça va bien?
Salut, Jess, ça va très, très bien. Mais cool. Quelle journée d'actualité. J'ai l'impression que je faisais ma revue de presse puis à chaque fois, j'étais comme, ben voyons donc.
Ouais,
ben voyons.
Il s'en passe des affaires. Il y a pas mal de choses qui relient aux politiques. Il y a des choses également qui se passent au niveau judiciaire. Donc, on va faire un gros tour d'actualité aux alentours de 12h30, c'est certain.
Je sais pas comment ceux qui travaillent en arrière, mettons, des ministres ou autres au fédéral, au provincial, ils s'en sortent en ce moment parce que la revue de presse doit être étoffée. Savoir quoi répondre à ça, ça doit être étoffé. Je suis bien contente d'avoir notre fidèle collaboratrice avec nous aujourd'hui, justement.
OK, oui. Antonine Iacarini, comment ça va?
Ça va super bien. Dans le
excellent.
Jus.
Oui, ben oui, hein, c'est ça. Sur le téléphone depuis tantôt, qu'est-ce qui se passe là?
Il se passe trop d'affaires. Ouais. Christian Freeland, la rentrée parlementaire à Ottawa, ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas. Et justement, compte tenu que ça n'arrête pas, Maquin, et annonçons, on va starter ça tout de suite.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iacarini.
Le caucus Iacarini, y en a-tu, y en a-tu pas des affaires aujourd'hui? C'est complètement fou. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence avec la démission de Chrystia Freeland?
Ouais, allons à Ottawa pour commencer. Là, c'était la rentrée parlementaire hier. Et ça met un peu la table pour la session parce que Pierre Poilievre est de retour. Mm-hmm. Et le jour 2, déjà une grosse nouvelle concernant Chrystia Freeland, anciennement la ministre des Finances de Justin Trudeau, qui avait démissionné avec fracas en décembre l'année passée. Et là, elle avait un nouveau rôle au sein du cabinet Carney. Elle était ministre des Transports et du Commerce interprovincial. Et là, c'est des sources pour l'instant, on va voir les annonces officielles, mais elle changerait de rôle. En fait, elle quitterait le Conseil des ministres et elle deviendrait comme une envoyée spéciale sur le dossier de l'Ukraine. Elle est d'origine ukrainienne, Chrystia Freeland.
Ah, je savais pas ça qu'elle était d'origine ukrainienne.
Absolument. C'est une personne d'origine ukrainienne, comme beaucoup de Canadiens d'ailleurs. On a une grande communauté de personnes d'origine ukrainienne au Canada. Et il y a évidemment tout ce qui se passe en Ukraine présentement qui est un dossier important, mais c'est quand même, ça soulève beaucoup de questions, là. Pourquoi on sort du Conseil des ministres? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un rôle plus important, plus intéressant pour elle que d'être ministre des dossiers dont elle avait hérité? Donc, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Sur le coup, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, hey, on va pas avoir une autre partielle. T'sais, dans ma tête, elle aurait un rôle diplomatique. Là, je cherche l'information, mais il semblerait qu'elle reste députée. Donc, c'est un rôle qu'elle a comme députée, mais elle ne serait plus ministre. Donc, peut-être qu'on va éviter l'élection partielle.
Penses-tu que c'est un choix personnel, mettons, dans ton analyse où on lui a demandé de se tasser?
Écoute, c'est votre hypothèse vaut la mienne. Est-ce que par exemple, il y avait des animosités? C'est sûr que, tu sais, Chrystia Freeland, on va se dire la vérité, là, elle a poignardé l'empereur là, en décembre dernier.
Elle a poignardé Justin Trudeau dans le dos. Ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, là, parce que ça a lancé le Parti libéral dans une crise sans précédent.
Mais en même temps, elle a parti un bal qui a mené à quoi? À la réélection des libéraux pour un quatrième mandat.
T'as raison.
Donc, c'est comme si on y avait un peu pardonné. Elle a fait la course à la chefferie libérale. Elle a beaucoup aidé Mark Carney pendant la course à la chefferie. Il y a eu zéro attaque pendant le débat, le seul et unique débat qu'on a eu.
Ben, elle faisait même reprendre ses mots en français pour être sûr que Carney ait l'air de parler français.
Écoute, il a donné un sacré coup de main pendant les débats. Donc, j'ai l'impression que la relation, elle était correcte. Il y avait du mémérage, là. Quand elle avait démissionné, il y avait eu le party de Noël après au Parti libéral. Ça me fait rire, les parties de Noël, parce que c'est des parties de Noël politiques, c'est toujours bien intéressant. Puis quand tu as du potinage, tu apprends plein de choses. Et elle s'est pointée. Elle aurait pu être accueillie vraiment très froidement, mais non, il y a beaucoup de gens qui venaient lui parler. Ouais, puis quand elle s'est présentée au caucus, moi, je me disais bonjour l'ambiance au caucus. Puis elle avait eu une main d'applaudissement. Et Justin Trudeau aussi avait eu une main d'applaudissement. Donc,
c'était formé deux clans.
Oui, mais en même temps, on sentait qu'on ne voulait pas augmenter les divisions.
Mm-hmm.
Elle a décidé de se représenter. Elle l'avait promis pendant la chefferie. C'est quelque chose que les gens font, les candidats à la chefferie, de promettre que même s'ils perdent, ils vont se représenter. Mais est-ce qu'il y a des blessures qui demeurent qui restent, à la suite de tout cet épisode-là? C'est
As-tu
possible?
Peur qu'elle recommence ce genre de truc-là, soit de ne pas prendre pour son chef dans la politique? Est-ce que ça garde des dommages importants?
Ça peut laisser des traces. Cela dit, c'est quand même spécial parce que Mark Carney et Christopher Hunt sont amis dans la vie. Donc,
Mark Carney est même le parrain d'un de ses enfants.
Exactement. Donc, c'est un peu particulier. J'ai hâte de connaître un peu plus les détails sur les raisons du pourquoi, du comment de cette décision de changer de rôle pour Christopher Hunt.
Le lien de confiance. Et toi, tu as déjà été à l'interne dans un parti politique, Antonine. Est-ce que ce lien de confiance-là peut s'être brisé quand même avec certains ministres importants? Et ça explique que ces ministres-là auraient pu dire à Mark Carney, « Hey, sais-tu quoi? » Moi, elle, j'ai trop peur qu'elle me poignarde dans le dos. J'aimerais ça qu'elle soit plus loin.
Absolument. Ça brise un lien de confiance. Quand quelqu'un fait ça une fois, c'est une grosse trahison quand même. Même
oui.
Si, honnêtement, je regardais comment Justin Trudeau avait agi avec Christopher Freeland et il a tout placé pour que ce genre de situation-là arrive. Mais elle l'a fait là, de la manière la plus fracassante possible, de manière à ce que ça fasse le plus mal possible à Justin Trudeau. Et les chefs des partis puis les premiers ministres connaissent toujours des fins tragiques. C'est comme ça. C'est assez rare que tu termines, là, à moins que tu démissionnes au top.
Le vote de confiance de Bernard Landry.
Vote de confiance, défaite électorale ou une mutinerie à l'interne. C'est
ouais.
Pas mal ça, la norme. Mais Christopher Freeland est allé là, pour ce qu'il y avait de plus spectaculaire. Et il y a quand même toujours un dilemme pour les gens autour d'un chef puis les ministres, etc. C'est que, OK, peut-être que le chef n'est plus la personne de la situation, mais c'est quand même la personne qui a mené les troupes. En 2015, là, quand les libéraux sont arrivés en campagne électorale, il était troisième.
Ben, c'est ce que j'allais dire, exactement. Ça n'est nulle part. Souviens-toi les publicités avec Justin Trudeau qui montait un escalier roulant
oui.
En disant on est en train de gravir. Exactement.
Mais il l'a fait. Tu sais,
il l'a fait. Il l'a
réalisé. C'est sûr que la cote de popularité de Justin Trudeau n'est pas très élevée. Je pense que les gens sont fatigués après toutes ces années de gouvernement. Trudeau et tout ça. Cela dit, quand tu regardes les gens autour de lui, est-ce que c'est eux qui ont vraiment fait la différence pour passer de troisième à premier en 2015 ou Justin Trudeau peut quand même avoir une part du mérite?
Ben, c'est pas mal Justin Trudeau qui a fait la différence.
Donc, on le remercie en y mettant un couteau dans le dos. T'sais, c'est très ingrat.
Non, c'est vrai, c'est très ingrat. C'est, en effet, est-ce qu'il pourrait avoir ce fameux déficit de 100 milliards-là qui viendrait expliquer ça? Mais compte tenu qu'elle reste députée, j'y crois moins. T'sais, c'est ma première hypothèse de dire, hey, c'est-tu quoi? C'est Freeland qui a décidé de partir.
Un deuxième départ fracassant
à cause des déficits, parce que c'est la raison qu'elle avait donnée pour avoir poignardé Justin Trudeau dans le dos.
Écoute, on spécule ensemble. Effectivement, si elle reste députée, c'est moins comme si on claquait la porte.
C'est ça.
Cela dit, quand elle a claqué la porte la dernière fois de son rôle de ministre des Finances, elle n'a pas démissionné comme députée non plus.
En effet, c'est vrai. Donc, elle pourrait aussi avoir claqué la porte, mais cette fois-là, ça sortira pas. Là. Mark Carney est trop en selle au niveau du Parti libéral pour qu'elle s'attaque à ça. Parlant de Mark Carney bien en selle, c'était la rentrée de Pierre Poilievre hier à la Chambre des communes. C'est-tu moi ou Pierre a perdu de son mordant? Je te laisse écouter sa première question en français.
Battle River Crowfoot, M. Couric est le premier à avoir déclenché un partiel très rapidement. Je pense que parfois, il va regretter cette décision. Mais je pense qu'on est tous d'accord avec la mission de rétablir un Canada où le travail acharné est récompensé avec des logements et de la nourriture abordable dans des rues sécuritaires avec des frontières solides unies sur notre fier drapeau. Est-ce que le premier ministre en est d'accord?
C'est doux, hein?
Ben c'est doux, c'est « Hey, on va travailler ensemble, on va être unis, on est le Canada fort, battons-nous contre les États-Unis. » On est encore là-dedans au Canada, puis on a fait des élections le 28 avril. Je m'attendais à plus de résultats.
Ouais, en même temps, probablement, il a posé d'autres questions qui étaient un peu moins gentilles,
ouais.
Notamment pour le comparer à Justin Trudeau et rappeler que c'est Justin Trudeau numéro 2. C'était moins sympathique un peu. Deuxièmement, je retrouve le ton que Pierre Poilievre avait dans les débats pendant la campagne électorale. Si vous vous rappelez le débat Radio-Canada,
ouais.
Débat en français du consortium, il avait exactement ce ton-là et avec la même ligne de la nourriture abordable, une belle maison dans une belle rue mm-hmm. sécuritaire avec des frontières qui sont sécuritaires
ben,
aussi.
C'est sa promesse canadienne.
Oui, puis honnêtement, moi, je trouve que c'est une bonne ligne.
Bien, clairement, moi aussi, parce que lorsqu'il dit ça, je trouve qu'il parle à une très grande majorité de gens.
C'est ça que le monde
qui,
veut.
À l'heure actuelle, n'ont pas accès à la propriété.
C'est ça.
Parce que le coût de la vie est trop élevé, parce que les coûts des maisons sont trop élevés, fait que pas capable d'économiser la mise de fonds.
Pas pour rien que ça marche auprès des jeunes, beaucoup. En ce moment, il y a une montée du conservatisme chez les jeunes. Parce que c'est ce rêve-là qu'on a, juste d'avoir une maison puis vivre dans un beau quartier. C'est la base. Puis quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas aspirer à davantage.
Bien, on en parlait la semaine passée avec d'autres collaborateurs. Tu me posais la question, pourquoi est-ce qu'il y a cette montée-là, selon toi, c'est tel point crucial? L'économie en ce moment, tu sais, quand t'es jeune, tu te dis souvent, ah, je suis un peu plus de gauche pour les filets sociaux, tu payes moins d'impôts, t'en rends moins compte en vieillissant, ben là, ça t'embarque dans
t'es,
le bateau.
Puis t'es très solidaire quand tu payes pas beaucoup d'impôts.
Exact!
T'sais, c'est très généreux avec l'argent des autres.
Ah ouais, mais c'est un petit jeu de mots, ça, par exemple?
Peut-être, peut-être.
Mais plus rapidement maintenant, le contexte économique intéresse la jeunesse. On en entend parler au secondaire, ce qu'on n'entendait pas vraiment au niveau là, d'un contexte où, en plus, on n'avait pas de cours d'économie pour plusieurs dans tout ce qui est le cursus scolaire. C'est fascinant de voir à quel point se loger, finalement, c'est vraiment une priorité, peu importe les générations.
Donc, pour moi, c'est un bon message, mais aussi sur le ton, parce que sur le fond, c'est un bon message. Sur le ton, j'ai beaucoup travaillé dans l'opposition, moi, dans ma vie, plus qu'au gouvernement, ben, à peu près égal, en fait. Puis, quand tu es une opposition, tu joues un jeu d'équilibriste entre t'opposer, dénoncer, faire mal paraître le gouvernement, donc le négatif, mais aussi être positif, constructif, apporter des propositions. Donc, Pierre Poilievre, c'est plus un type agressif. Il attaque beaucoup. C'est un peu comme un pitbull là, de la politique.
Et ça lui servait beaucoup face à un Justin Trudeau qui était complètement anéanti dans les sondages. Mais là, face à Mark Carney, tu me corriges, je me trompe, il n'y a pas le choix de se montrer plus collaboratif pour que la journée où le Parti libéral va se mettre à descendre, ben les gens pensent à lui non pas comme un chien qui l'a attaqué tout le long, mais comme quelqu'un,
une
justement.
Une solution de remplacement.
C'est ça.
Puis un premier ministre aussi. Parce qu'être un excellent chef de l'opposition, c'est pas toujours les mêmes qualités qu'un premier ministre. Puis honnêtement, Pierre Poilievre, des fois, a l'air d'un petit gars en culotte courte à côté de Mark Carney avec tout son CV, son expérience, son calme.
Ouais, j'aime
Donc,
ça.
Donc, il s'adapte tranquillement. En même temps, il va pas changer complètement sa personnalité. Pierre Poilievre, c'est quelqu'un qui est très cohérent dans sa pensée, dans ses lignes, et qui accepte. Des fois, il dit, je sais que c'est pas la chose populaire à dire de bon ton aujourd'hui, mais c'est ce que je pense, puis ça va être ça que je vais penser dans 6 mois probablement. Vous allez pas voir d'énormes changements. Donc, à ce titre-là, il joue le jeu plus sur le long terme. Malheureusement, en politique, tout est question de timing. La campagne électorale en avril dernier nous l'a démontré, qu'il y avait un peu eu de difficultés à s'adapter à son nouvel adversaire politique. Ça lui a valu des critiques. Sa directrice de campagne aussi, Jenny Byrne, a été très, très critiquée d'avoir gardé la même stratégie. Maintenant, est-ce que le naturel va revenir au galop pour Pierre Poilievre? C'est sûr. Là. Cet automne, il va attaquer. Là.
À 100 milliards de déficit, je pense qu'il va revenir au galop. Là. On a un autre qui nous écrit « Il n'y a pas le choix d'être un peu plus mollo, car les gens vont dire qu'il est juste de mauvaise foi. Il veut juste mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Il doit se montrer comme premier ministre aussi. » C'est exactement ce qu'on est en train de parler.
On partage la même analyse que cet auditeur. Puis aussi, c'est que c'était un reproche qu'on faisait un peu à Pierre Poilievre, c'est qu'il attaquait sur tout.
Oui, oui.
À un moment donné, il faut que tu choisisses, parce que sinon, tu n'as pas l'air constructif, tu n'as pas l'air honnête, tu as juste l'air partisan.
Oui, puis à un moment donné, campagne électorale, j'ai entendu, Pierre Poilievre est un excellent chef d'opposition, mais il ne sera pas capable d'être premier ministre, donc il faut qu'il se mette dans cette chaise-là.
Il y a eu le contexte économique, on en parlait ensemble les trois la semaine passée aussi, où on pensait que, bon, c'est parce qu'on avait un député conservateur au fédéral qui est venu nous jaser aussi, mais on pensait que c'était peut-être un choix hiérarchique de laisser Mark Carney prendre la place avec Justin Trudeau, avec Trump. Est-ce que tu penses que, par le fait que ça n'a pas fonctionné, il n'a pas été élu, il risque d'être encore plus, avoir plus de mordant pour la suite des choses? Je sais que tu n'étais pas trop en accord avec la position du conservateur.
Ouais, mais moi, je sais pas une analyse que je partageais nécessairement, que les conservateurs ont décidé d'être plus doux parce qu'il y a une crise nationale. Je ne croyais pas du tout, en fait, à cette hypothèse-là. Maintenant, si tu choisis tes combats, on va plus te croire. C'est comme le petit gars qui crie au loup. À un moment donné, tu te dis, il n'y en a pas de loup, il n'y en a pas. Puis la fois qu'il y a un loup, tout le monde, personne t'écoute. Donc, moi, je pense que c'est vraiment dans cet objectif de choisir ses combats. On a un Mark Carney qui est quand même encore très populaire. Fait que c'est un défi, évidemment, de le critiquer.
Clairement.
Mais tu ne peux pas arrêter non plus puis essayer de dire, je vais m'accrocher à ça. Puis, non. Donc,
tu peux pas faire du François Legault qui s'accroche à Mark.
Oui, mais quand tu es dans un autre.
Fait, je le fais.
Dans un autre palier de gouvernement, c'est tel que tel. Comme chef de l'opposition, tu peux pas faire ça. Et là, vraiment, à surveiller cet automne, ça va être le budget. oui. des déficits monstres. On s'entend qu'on voit apparaître un 100 milliards de déficits, à moins que François Philippe Champagne fasse des grands miracles et laissez-moi douter.
Ouais, mais ce qui va être drôle, c'est qu'on va faire 88 milliards de déficits, finalement, on va se taper dans les mains. Hey, c'est pas 100.
Hey, c'est ça. On va dire, wow, quel beau budget.
Non, c'est 88 milliards de déficit, je voudrais le rappeler.
Puis aussi, attention, puis je le dis à nos auditeurs, faites bien attention, parce que là, on fait de la comptabilité créative depuis un petit moment. Hein?
Ah oui,
c'est pas des dépenses.
Investissement.
Ben oui, c'est des investissements.
Mais là, dans les investissements, on est rendu que les soins dentaires, c'est un investissement pour la population canadienne.
Ben c'est ça. Tu peux tout. Un comptable te dirait, il n'y a pas de dépenses ou d'investissement. C'est-tu dans la colonne en noir ou c'est dans la colonne en rouge? Dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est dans la colonne que tu sors de l'argent de tes poches ou c'est dans la colonne que ça rentre dans tes poches? C'est
à peu près
ça, revenu-dépense.
À part de ça, faut toujours, pour pouvoir comparer des budgets et des déficits, faut que tu calcules sur la même base.
Ben oui.
Quand tu changes les règles du jeu en cours de route, ben on va revisiter les budgets précédents, puis on va faire la même affaire, puis on va se donner des tapes dans le dos en disant qu'il n'y avait pas de déficit finalement à ce moment-là. Ça marche
J'ai
pas,
assez
là.
Hâte que le gouvernement me donne une aide pour aller me faire couper les cheveux comme ça, de cette façon-là.
Mais c'est un investissement,
ça va être un investissement,
Jeff.
Pour moi.
Ben oui, c'est ça. Tout peut être un investissement. C'est les maths que je fais souvent quand je fais du shopping. T'sais, ça valait 500$. Je lui en rabais à 200$, je viens d'économiser 300$.
Il y en a qui rient avec ça en disant c'est des girls math, là.
Ouais, vous avez remarqué, j'ai pas dit girl.
Oui.
Parce qu'il y a des gars de même, par exemple,
oui.
mon chat.
Puis sur d'autres choses.
Le vote sur le budget va être vraiment périlleux pour tout le monde. Non seulement pour Mike Carney, mais aussi les conservateurs qui veulent pas partir nécessairement en élection.
Mais qui peuvent pas dire oui à un déficit comme ça.
Ça n'a aucun bon sens. Ils peuvent pas voter pour le budget, là. Puis le bloc, même affaire, parce que là, je veux dire, quel gain tu vas aller chercher. Puis le leader parlementaire, Stephen McKinnon n'a pas montré beaucoup d'ouverture à donner des nananes aux oppositions. Ils veulent gouverner un peu comme s'ils étaient majoritaires. Donc, vraiment, ils vont compter sur le NPD. Il faudrait pas qu'il y en ait trois qui aillent aux toilettes. Là.
Avant qu'on écoute la citation, justement, ben, l'extrait des François Blanchet en entrevue hier concernant le déficit, tu dis les libéraux, ça a attiré mon attention, les libéraux gouvernent comme s'ils étaient majoritaires. C'est parce qu'ils sont tellement populaires dans les sondages que pour eux autres, là, c'est même pas vrai qu'ils sont minoritaires?
Ça peut faire partie de l'explication, mais aussi parce qu'on avait un autre gouvernement minoritaire juste avant. Là, donc, il y a comme une habitude qui s'est installée, peut-être.
Oui, c'est un bon point. On écoutait François Blanchet, justement, lorsqu'il s'est fait poser la question à 100 milliards. Le déficit, est-ce que vous allez voter pour ou contre le budget?
Le truc est vieux comme le monde. On dit à un parti d'opposition, nommément le Bloc, regardez, on fait ça, vous voulez ça, on va le faire. Mettons, ça, j'aimerais bien qu'il le fasse. On veut une augmentation des transferts en santé. OK, on va augmenter les transferts en santé, mais en échange, vous devez accepter qu'on prenne des milliards de dollars et qu'on le mette dans le pétrole de l'Ouest, sachant que la somme payée par le Québec va peut-être être plus importante que les transferts en santé. Alors, il va falloir voir ce que ça contient. Et il est exclu de ma part, et ça va rester comme ça, de dire comment on va voter avant d'abord qu'on l'ait en main, qu'on l'ait analysé, que les discussions possibles échoent, mais il ne faudrait pas se faire d'illusions. Je ne vois pas comment les Québécois nous permettraient de voter en faveur d'un déficit que leurs enfants et leurs petits-enfants, et peut-être au-delà, vont continuer à payer.
Bon, je ne dirai pas comment je vais voter, mais je ne voterai pas pour un budget déficitaire. Bon, ben dis que tu vas voter contre, là.
Mais il veut pas. En fait, la seule ligne qu'il aurait dû donner, parce qu'il y a beaucoup de mots dans les réponses
beaucoup trop de mots.
De François Blanchet, c'est je peux pas me prononcer tout de suite tant que je sais pas ce qu'il y a dans le budget. Mm-hmm. Maintenant, on a un gros problème avec les déficits, puis on a un gros problème avec le tout au pétrole ces temps-ci. Maintenant, on va attendre de voir qu'est-ce qu'il y a dans le budget. OK?
C'est ce genre de position-là.
Maintenant, le
s'il
bloc.
S'il te plaît, envoie pas ton CV, François Blanchet. On aime le caucus
Iacarini,
d'ailleurs, pour rappeler.
Mais moi, je donne mes conseils gratis. Vous allez juste m'écouter à la radio. C'est
ça, le caucus Iacarini. C'est du lundi au jeudi, midi à 12h30 dans l'émission On en jase. On poursuit.
On enchaîne, mais mes conseils sont gratuits. Je les donne à tous les partis. C'est un peu long comme ligne et c'est un peu flou. Et l'année passée, ça jouait des tours au bloc parce qu'il y avait une collaboration. On essayait d'aller chercher des gains sur la gestion de l'offre pour les aînés, etc. Et pendant ce temps-là, les conservateurs disaient « le Bloc continue d'être aux côtés de Justin Trudeau ». Ils appelaient ça le Bloc libéral. D'ailleurs. Et même le PQ, maintenant, critique le Bloc en trouvant que la collaboration est trop grande. Donc, moi, je trouve que François Blanchet est sur un fil de fer en ce moment. Mais en même temps, personne ne veut partir en élection.
Fait que
là, tout le monde va espérer qu'il y ait quelqu'un qui vote. Si le NPD voulait jouer vraiment un tour aux conservateurs puis au Bloc, là, il pourrait tout de suite dire « Nous autres, on va voter contre. C'est un budget de droite avec de l'austérité et on vote contre. » Et là, les conservateurs puis le Bloc se regarderaient puis ils diraient « Zut, qu'est-ce qu'on fait avec ça? »
C'est-tu moi où le NPD prend un peu son trou pour utiliser cette expression-là depuis qu'ils ont essayé de cette alliance-là qui n'a pas servi? Finalement, ils ont été vus un peu
mous. Ils sont dans le trou. Ils prennent pas leur trou. Ils sont dedans.
Mais ils restent dedans un peu, non?
Ben, c'est ça. Ils n'ont pas de chef. Il y a un chef intérimaire à l'heure actuelle. Ils sont un peu dans leur torpeur. Ça va pas très bien.
Ça sert de pas trop parler puis de pas trop se faire voir.
Ben, c'est aussi difficile pour un chef intérimaire de prendre des positions très, très précises sur une nouvelle réalité. Parce que, veut, veut pas, le NPD de Jagmeet Singh, on était avec Justin Trudeau, c'était l'Alliance, etc. Là, la game a complètement changé. Et comme chef intérimaire, tu veux pas non plus encarcaner tes candidats. Ils doivent avoir un débat sur le bon positionnement à prendre avec cette nouvelle réalité, la crise commerciale, etc. Donc, c'est pas anormal qu'ils soient assez absents, mais il va falloir quand même qu'ils existent, là, parce qu'ils ont que disparu.
Des fois, ça peut donner des imbroglios comme le Parti libéral du Québec où Marc Tanguay avec Moncef Desragé, Frédéric Beauchemin, Marois Risky sont revenus à l'économie, l'austérité, puis Pablo Rodriguez a été élu.
C'est ça. Donc, des virages comme ça qui sont parfois un peu difficiles à gérer, mais ça prend un débat chez les membres pour décider d'une vision commune.
En effet.
Puis le positionnement gauche-droite, ça va en faire partie. Parce que avec un Carney qui est plus à droite un peu, il y a une opportunité pour le NPD. Parce qu'il y a des gens qui vont plus, des gens de gauche canadiens, qui vont plus se reconnaître là-dedans. Donc, où est-ce qu'ils vont aller? En ce moment, ils n'ont nulle part à aller parce que le NPD est en miettes. Donc, il y a une opportunité. Malheureusement, des fois, ce genre de parti-là a tendance à plus se radicaliser qu'à se professionnaliser, devenir une alternative viable.
C'est pas arrivé à QS
non.
Dans la dernière année, pas du tout. On change de sujet. Commission Gala, Nathalie Tremblay, ex-PDG pour la SAC, qui a défendu Karl Malenfant. Puis là, hier, j'ai fait entendre un extrait de Paul Arcand qui parlait de Karl Malenfant sur sa tour d'ivoire qui se sacrabine des files d'attente à moins 30 en plein mois de février.
Absolument.
Puis elle apprend sa défense. Je comprends pas trop.
Bien, il y a comme deux messages contradictoires. Il y en a un qui nous dit « Je lui faisais confiance, il n'est pas si pire que ça ». Mais il y en a un autre qui dit « Je comprenais pas quand tu me parlais, il me noyait de chiffres. » Puis ça revient régulièrement chez tout le monde. Hein. C'est trop d'informations, c'est pas d'informations. Si moi, là, je te dis « Hey Jeff, on a une réunion dans 15 minutes, voici un document de 45 pages écrit en format 8. »
C'est clair.
Puis que je fais exprès que ce soit des mots que tu comprends pas dans un langage technique.
Ouais, mais admettons qu'on reprend cette image-là. Puis que toi, t'es mon employé. Ben, je vais te dire « Hey, sais-tu quoi? On va remettre la réunion. »
Me semble, hein? Mais c'est ça. Fait qu'il y a eu manquement là, de la part de la PDG.
Clairement.
Parce que si tu comprenais pas, tu peux pas dire, ben OK, continue. Ça marche pas.
Ben
il y a quelque chose
non.
qui marche pas là-dedans.
Non, tu demandes des explications claires. Puis si tu comprends pas encore après les explications claires, ben tu trouves une autre ressource et elle peut être externe pour dire, hey, explique-moi donc, je suis en train de m'en faire poser une.
Le problème, probablement, puis tu sais, j'étais pas dans la pièce quand tout ça est arrivé, évidemment, mais c'est que tu te fais mettre devant des situations où on dit, ouais, mais là, si tu me retardes, ça va coûter plus cher.
En effet, t'as raison.
Fait que là, t'es sous pression, puis tu dis, ah, ben, OK, vas-y. Puis là, surtout si la personne te met tout ça beau. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que M. Malenfant, ça a pris du temps avant qu'il avoue, puis elle l'avoue encore, même pas vraiment que ça a mal été. Là. Donc, c'était un petit peu décourageant. Après ça, on a appris aussi depuis lundi qu'on n'avait pas vraiment prévu dans les appels d'offres, qu'est-ce qui se passerait en cas de dépassement de coûts. On a une tabarouette de problèmes si on ne fait pas de scénario de dépassement de coûts. Il y en a tout le temps.
C'est clair, il y en a tout le temps. Il faut savoir qui se les partage. Ça, c'est sûr que ça va faire partie d'une recommandation, ça, du commissaire Gannett, ça serait de ça.
100%, c'est garanti.
C'est clair. Puis, pour ce qui est de Karl Malenfant, ben, il va passer cette semaine, autrement dit.
Oui, dans le fond, on n'est pas capable de vous dire toujours à quelle heure exactement, à quel jour, parce que ça dépend des interrogatoires. Après ça, on les prend dans l'ordre. Mais oui, Karl Malenfant devrait avoir son témoignage bientôt. Ça va être bien intéressant, mais ça devrait brasser un peu, parce qu'évidemment, il y a de l'animosité entre lui et la commission depuis le début, avant même là, qu'il s'accompagne.
C'est clair. Écoute bien ça. C'est les violons de l'Acadie. C'est parce que Karl Malenfant joue du violon. C'est beau, hein?
Ça manque de violon, ton extrait.
Ouais, c'est vrai. Je pensais qu'on reste quelque chose avec plus de violon. J'ai choisi au hasard.
C'est que le titre fait un peu de fausse représentation.
Mais c'est pas grave.
C'est pas grave. C'est le concept.
Écoute, exactement.
Bon.
Ah, attends.
Ah, les blocs! On a entendu un petit coup de violon.
Ouais. Non. C'est plus une chorale qu'un violon. Je vais aller me plaindre.
Bon, écoutez, fait que on va écouter les violons. Les vrais violons vont venir
exactement.
Avec le témoignage de Karl Malenfant.
Sondage Somme dans le soleil. On va parler avec Éric Lacroix, justement, vice-président et chef stratégique chez Somme, tout à l'heure à 13h30. Bon, à Québec, on est rendu à 59% d'approbation pour le troisième lien. on était à 70 %. Le tramway reste figé dans le temps, 40 %. T'en penses quoi? C'est quoi ton analyse?
Bon, pourquoi on a baissé comme ça en taux d'appui pour le troisième lien? Je pense pas que les gens, tout à coup, se sont mis à dire « Oh, c'était pas utile. J'en voulais un, mais j'en veux plus. » Je vois deux choses. Un, le trajet.
Clairement.
Le tracé qu'on nous a présenté. Peut-être que les gens ne sont pas d'accord pour une partie, en tout cas, avec ce tracé-là. Ça a été très critiqué. Mais en fait, il n'y a aucun tracé qui fonctionne puis qui est parfait. Là. On s'en rend compte de plus en plus, même si on est pauvre.
Sauf que celui-là, il est particulier. Là.
Ouais,
on vient Saint-David.
Ouais, non, il y a beaucoup de critiques. Ça portait à la critique. En même temps, en termes d'ingénierie, c'est un des seuls projets qui fonctionne le moindrement. Parce que ce qu'on nous présentait avant, tu parlais à deux, trois ingénieurs, puis tu comprenais assez rapidement que c'était pas particulièrement faisable, puis que le cabinet du premier ministre Legault prenait quasiment la main des ingénieurs, puis il disait « Vas-y, dessine-le là, ça va marcher », mais ça marchait pas. Donc, il y a le tracé, et deuxièmement, il y a, l'espoir. C'est-à-dire que, oui, on demande aux gens s'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais ils seront pas juste sur le fond. On est aussi sur la forme rendue dans ce projet-là, mm-hmm. au niveau de découragement de « Est-ce qu'on y croit ?» où on n'y croit pas. Et je pense qu'à un moment donné, les gens, ils se disent, ben, c'est pas que je suis contre, c'est juste que je veux arrêter de m'en parler, dans le fond. Je veux plus en entendre parler. Parce que c'est une saga qui ne se termine pas, parce que le gouvernement de la CAQ a perdu la confiance des citoyens de Québec entourant ce dossier-là, et que je doute qu'ils vont... J'ai l'impression qu'ils vont manquer de temps d'ici 2026 pour rétablir cette confiance-là sur le dossier. Donc, on sent un engouement qui est à la baisse un peu pour le projet.
Oui, puis en même temps, on s'est fait l'idée, et là, peut-être à tort ou à raison, parce qu'on est encore un an des élections, que ça va être le PQ qui va être élu, puis le PQ est contre le troisième lien. Fait qu'à un moment donné, je veux bien pas être pauvre, moi pédaler dans le vide en tabarouette.
Bon, il y a peut-être une forme de réalisme
c'est ça.
À travers ça. Puis, tu sais, quand on regarde des sondages comme ça, on demande aux gens s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec quelque chose, mais il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est ça qui motive le vote des gens? Mm-hmm. Est-ce que les gens vont vraiment voter sur le troisième lien, sur le tramway, si on parle au palier municipal? Des fois, la réponse est oui, mais des fois, la réponse est non. Même si, par exemple, je vais avoir un citoyen XYZ qui serait pour le troisième lien, mais qui va voter pour le PQ parce que c'est pas sa priorité de tous les instants.
Bien, dans les derniers jours, moi, je me questionnais seul au monde par rapport aux prochaines élections en me disant, est-ce que les gens vont être complètement déchirés dans leur vote parce qu'il va avoir position, par exemple, pour le PQ au niveau de la souveraineté puis du référendum, mais une envie d'un troisième lien ou que les enjeux sont tellement dissonants, sont loin les uns des autres dans chacun des partis. Est-ce qu'on va être encore face à des gens qui vont être orphelins politiques?
Bien, en fait, on est dans un monde qui est très individualiste, qui est très atomisé. Donc, on le sent aussi que la baisse d'intérêt pour la politique, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de parti qui coche toutes les cases. Mais ça a toujours été comme ça. Même avant, c'était pire. Il y avait deux partis politiques. Maintenant, il y en a cinq.
Ouais,
et même plus, là, si on veut aller dans les tiers partis. Donc, ça va vraiment être de voir qu'est-ce qui est le plus important. Les gens votent stratégiquement aussi à un moment donné. Si on regarde, dans Arthabaska, il y a des gens non souverainistes qui ont voté pour le PQ.
Ouais.
Donc, ils étaient capables de passer par-dessus ça. La question du troisième lien risque de faire un peu la même chose. Puis, les gens vont être très... En fait, l'importance du chef, on s'en rend compte. Hein. Paul Saint-Pierre Plamondon est populaire. Les gens ont l'air de le trouver honnête, intègre,
clair. Il incarne le changement.
C'est lui qui a réussi à incarner le changement.
Oui, il incarne le changement, mais en même temps, il incarne un changement intelligent. Je vais le dire comme ça, quand Paul Saint-Pierre Plamondon parle, c'est concis, c'est précis, on comprend. L'électeur moyen comprend ce que Paul Saint-Pierre Plamondon lui dit.
Mais c'est fou hein, comment la forme est importante, parce que des fois, il y a quelqu'un qui va te parler, t'es pas d'accord sur le fond, mais tu respectes sa cohérence,
oui.
la manière claire, son honnêteté, puis on dirait que des fois, ça prend le dessus, finalement, sur le fond de la position.
Exactement.
Est-ce que ça peut tenir pendant très longtemps? Par contre, la débandade après, là, puis on le sait, il peut y avoir des déceptions par la suite. Je pense que le troisième lien, ça va quand même demeurer un enjeu électoral important dans la région, mais on sent qu'il y a un essoufflement, fatigue entourant ce dossier-là.
Tramway 40 %, je suis Bruno Marchand, je suis juste parfait, les appuis sont stables, je m'en avant campagne électorale, le vote anti-tramway va se diviser. Voilà, je vais rentrer à la mairie.
T'sais, tant mieux pour lui, mais pas tant mieux pour nous, par contre. Parce que, vraiment, je trouve ça extrêmement divisé à Québec. Je trouve que l'ambiance est très... Il y a beaucoup d'animosité, c'est très polarisé. Puis qu'on soit d'accord ou pas avec le tramway, pour vrai, là, moi, ça ne m'excite pas tant que ça, le projet de tramway. Agressivement contre le projet de tramway. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui... Je ne le prendrai pas, le tramway. Je vais être bien honnête avec vous autres. Mais je suis rendue à un point où je me dis, qu'on le fasse. Je suis plus capable. C'est pire que le troisième lien, là. Je veux dire, l'idée qu'on va recommencer à zéro avec un autre projet, ça me décourage. Je me dis, allons-y, faites-le. Je ne suis pas en train de faire un appel au vote pour un parti qui appuie le tramway nécessairement. Mais cette fatigue qu'on a de parler du troisième lien pour le tramway, honnêtement, j'ai l'impression qu'elle est encore pire.
Je suis fatigué en tant que petit gars de Québec d'avoir à me battre pour qu'il y ait des projets qui se fassent dans ma région. Ça fait 7 ans de CAQ qu'il n'y en a pas eu de projet de fait. Normalement, que ce soit troisième lien, transport structurant, ça aurait dû commencer en 2015.
On a besoin d'une victoire. On a besoin d'un projet qui fonctionne. Cela dit, il n'y a pas juste le transport dans la vie. Là. Honnêtement, là, on pourrait faire d'autres des projets aussi en dehors du transport.
Bien, on avait le centre Vidéotron, on vient de fêter les 10 ans. Oui. Ça a été quand même dans un genre d'imbroglio aussi.
Oui, mais on n'a pas d'équipe de hockey. T'sais, ça aussi, ça... T'sais, pour vrai, on aimerait ça avoir quelque chose qui marche.
Ouais, on a des super belles tournées mondiales.
C'est sûr, c'est sûr. Tout n'est pas noir.
Salle pendant une semaine. Hey, en 30 secondes, les gens dans le même sondage disent référendum dans le premier mandat, j'en veux pas. À peu près à 50 % là, si je me souviens bien de mémoire, j'ai pas les chiffres devant moi, mais sont prêts à voter pour le PQ. Donc, c'est la preuve qu'on va voter en se disant « c'est qui va mieux gérer la province? » puis gérer le référendum après.
Tu sais, quand je disais que tu peux être pour quelque chose ou contre quelque chose, mais c'est pas nécessairement ça qui va driver, qui va motiver ton vote, on est là-dedans. C'est pas le même sondage, par contre, c'est un palace.
Oui.
49 % des gens sont très défavorables à la tenue d'un référendum. Là, tu dis, hey, quand même, c'est beaucoup, puis comment le PQ va réussir à se faire élire? Mais non, l'accession du pouvoir du PQ est pas bloquée par cette réalité-là. D'ailleurs, je voudrais quand même rappeler que pré-95, avant le deuxième référendum, les chiffres étaient similaires. Ouais. Quand tu leur pose la question, là, puis je vais faire une analogie boiteuse si tu me laisses encore en 30 secondes.
Ben, vas-y, je te laisse.
Mettons là, que tu es bien malheureux dans ton couple. Là. Puis là, tu dis, je te pose la question, t'as-tu le goût de divorcer? T'as-tu le goût d'aller en médiation? T'as-tu le goût de vendre la maison? T'as-tu le goût de passer chez le notaire? T'as-tu le goût de négocier des gardes partagées? La réponse, c'est non. Mais si je te dis, imagine-toi plus être avec cette conjointe qui te rend la vie impossible et qui te rend malheureux. Le taux d'approbation risque d'être un peu plus élevé que quand je te parle du processus. Il y a un traumatisme avec le référendum. Deux référendums perdus. Pour les souverainistes, c'est traumatisant. Mais c'est aussi traumatisant pour les fédéralistes, même s'ils ont gagné parce qu'ils se souviennent des familles déchirées, des chicanes. Ouais. Ça a été quand même très lourd. Ceci étant dit, ça ne va pas empêcher le PQ d'arriver au pouvoir. Mais évidemment, de gagner un référendum...
Ça va être autre chose. Ça va être une autre paire de manches. Qu'on aura le temps de parler assurément dans le caucus Iaccarini du lundi au jeudi à compter de midi. On fait toujours le tour de l'actualité politique. Antonine, merci beaucoup.
À demain.
À demain. Pascal, après la pause, tu nous as préparé un excellent dossier sur cette mère qui est non criminellement responsable par rapport à la fillette abandonnée.
Je suis allée même plus largement, mais j'ai pris ça, oui, dans l'actualité hier parce que ça fait tellement réagir. C'est émotif.
Clairement.
Hein? Surtout quand c'est des dossiers sur l'enfance ou encore des dossiers de meurtre, des choses comme ça. Je me suis dit, hey, pourquoi pas parler avec un avocat de la Défense, qui va nous expliquer ça rime à quoi, ça, la non-responsabilité criminelle. Pourquoi on est si émotif? Puis est-ce que c'est une façon de faire qui est quand même bien contrôlée ou on s'en fait passer des petites vites?
Quelle bonne idée! On fait cela immédiatement après cette courte pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase!
Ben, je viens d'en manger. C'est clair que moi, j'ai essayé d'adopter, honnêtement. Mais fou de la bouffe, ça me sauve la vie. Puis je sais pas si vous avez besoin de sauver la vôtre ou encore vous êtes bien tanné de cuisiner. Chose certaine, un repas qui est préparé avec des aliments exceptionnels à chaque midi. Tu mets ça au micro-ondes pendant 2-3 minutes. Moi, je trouve que ça s'appelle la belle vie. La belle vie parce que je pense pas à mon épicerie, je pense pas à cuisiner. Quand je le fais encore avec passion et envie de le faire. Pour l'heure du lunch, Jeff, c'est pas que je t'aime pas, mais quand ça va vite, ça me plaît avec notre horaire sur l'heure du midi. Je dîne rapidement avec toi, mais ça n'enlève pas l'affection que j'ai pour toi. Sauf que je sais que c'est aussi vos vies. La sandwich là, au ballonné ou encore les restes que les enfants n'ont pas pris puis n'ont pas choisi, ça te tente peut-être pas. Ou encore le souper. Et si t'es dans le jus, c'est sur l'heure du souper et Fou de la bouffe est là pour toi. Fou de la bouffe, c'est quoi? Ben, c'est des boîtes repas directement livrées à la maison. T'as pas besoin d'assembler ou de cuisiner. C'est vraiment prêt à manger. Comme je vous disais, tu le mets au micro-ondes. T'as plein de choix. Tu as des choix qui sont plus hauts en protéines, tu as des choix avec plus de légumes. On s'adapte en fait à ce que tu aimes. Puis tu as un repas délicieux à chaque fois dans ton assiette. Il faut savoir que tu choisis. Donc, tu vas avoir les menus de la semaine à chaque fois. C'est sain, c'est savoureux, c'est pratique. Et tu récupères ta boîte directement sur ton petit paillasson. Tu ouvres ça, tu mets ça au frigo, c'est fait. Même chose pour les lunchs des enfants. Il y a un menu qui change chaque semaine. C'est sans abonnement régulier, dans le sens où si tu en veux chaque semaine, tu peux. Si tu as envie d'avoir quelques semaines, tu peux aussi. Et dans les formats, c'est super le fun. Tu as des plus petits formats au méga 16, donc pour toute la famille. Je vous le dis, allez taper ça là. Fou bouffe. Fou bouffe sur Google, vous allez voir. Fou de la bouffe, c'est un game changer.
La route.
Ben, je viens d'en manger. C'est clair que moi, j'ai essayé d'adopter, honnêtement. Mais fou bouffe, fou de la bouffe, ça me sauve la vie. Puis je sais pas si vous avez besoin de sauver la vôtre. Ou encore, vous êtes bien tanné de cuisiner. Chose certaine, un repas qui est préparé avec des aliments exceptionnels à chaque midi. Tu mets ça au micro-ondes pendant 2-3 minutes. Moi, je trouve que ça s'appelle la belle vie. La belle vie parce que je pense pas à mon épicerie, je pense pas à cuisiner. Quand je le fais encore avec passion et envie de le faire. Pour l'heure du lunch, Jeff, c'est pas que je t'aime pas, mais quand ça va vite, ça me plaît avec notre horaire sur l'heure du midi. Je dîne rapidement avec toi, mais ça n'enlève pas l'affection que j'ai pour toi. Sauf que je sais que c'est aussi vos vies. La sandwich là, au ballonné ou encore les restes que les enfants n'ont pas pris puis n'ont pas choisi, ça te tente peut-être pas. Ou encore le souper. Et si t'es dans le jus, c'est sur l'heure du souper et Fou de la bouffe est là pour toi. Fou de la bouffe, c'est quoi? Ben, c'est des boîtes repas directement livrées à la maison. T'as pas besoin d'assembler ou de cuisiner. C'est vraiment prêt à manger. Comme je vous disais, tu le mets au micro-ondes. T'as plein de choix. T'as des choix qui sont plus hauts en protéines, t'as des choix avec plus de légumes. On s'adapte en fait à ce que t'aimes, puis t'as un repas délicieux à chaque fois dans ton assiette. Il faut savoir que tu choisis. Donc, tu vas avoir les menus de la semaine à chaque fois. C'est sain, c'est savoureux, c'est pratique. Et tu récupères ta boîte directement sur ton petit paillasson. Tu ouvres ça, tu mets ça au frigo, c'est fait. Même chose pour les lunchs des enfants. Il y a un menu qui change chaque semaine. C'est sans abonnement régulier, dans le sens où si tu en veux chaque semaine, tu peux. Si tu as envie d'avoir quelques semaines, tu peux aussi. Et dans les formats, c'est super le fun. Tu as des plus petits formats au méga 16, donc pour toute la famille. Je vous le dis, allez taper ça là. Fou bouffe. Fou bouffe sur Google, vous allez voir. Fou de la bouffe, c'est un game changer.
La route.
Tous les sujets d'actualité, on a besoin d'un peu d'humanité ces temps-ci. Puis des fois, tu te dis, ah, peut-être que ma job me mine un peu le moral. J'aurais besoin de douceur, j'aurais besoin de sentir que je fais une différence. Puis ça m'alimenterait beaucoup au niveau humain. Bien, Hébergement Rive-Nord est là pour toi. C'est une entreprise d'ici, fondée en 2015. C'est une équipe qui est continuellement à la recherche de gens humains pour justement faire partie des ressources intermédiaires. C'est 5 ressources intermédiaires qui hébergent des résidents qui présentent une déficience intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme. Alors, on est vraiment dans l'humain pur avec le fait de s'entraider parce qu'on veut améliorer la qualité de vie, la qualité des soins aussi pour ces bénéficiaires-là. Et c'est une équipe qui est passionnée des gens, passionnée du confort, du bonheur. C'est une équipe qui est dynamique. On a des éducateurs spécialisés, des intervenants en délinquance, des travailleurs sociaux, hein? Tous des gens qui sont tournés vers l'autre habituellement, quitte à s'oublier. Mais là, on ne s'oublie pas hein, du côté d'Hébergement Rive-Nord, même en tant qu'employé, parce qu'on est là pour veiller au bien-être des bénéficiaires, mais les uns des autres aussi. Et c'est pour ça qu'on te demande si ça te tente d'aller travailler avec Hébergement Rive-Nord, si ça te tente aussi de faire affaire avec eux pour un bénéficiaire. On va veiller au bien-être de tous et chacun au quotidien. Autant des résidents, des collègues de travail. Le travail, c'est intervenir auprès de la clientèle, c'est de participer à l'amélioration du milieu de vie des résidents, animer des activités auprès de la clientèle, de veiller tout simplement à ce que les journées passent, mais passent dans la douceur et dans un milieu de vie qui est serein. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, directement sur le Facebook d'Hébergement Rive-Nord, tu vas pouvoir y répondre ou encore lâcher un petit coup de fil.
Chez Subway Canada, on laisse donc...
13h06 exactement, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission d'En Jase avec Jeff Fortin, Pascal CV. Pour nous joindre, 418-971-1021, toujours un bonheur de vous lire et d'interagir avec vous. Également, on est disponible sur la web radio blvd.fm. Les meilleurs moments de chacune des émissions à Boulevard vont se retrouver là. D'ailleurs, le matin, c'est Marceau le matin, de 6h à 10h. Le point de max de 10h à midi. On en jase sur l'heure du midi, de midi à 2. Et le retour de Gravel... de 14h à 18h. Il y a aussi Marceau le soir de 18h à 19h. Et Pascal, c'est Lino Zambito ce soir avec Marceau dans Marceau du soir.
Il devait me trouver tannante. J'ai couru après M. Zambito pendant des semaines.
J'imagine, excellent booking de ta part,
parce
Mme
que
CV.
Je travaille encore pour le booking de Marceau le soir. Donc, ouais. Moi, je te pile Jumonde qui me ramène aux abîmes puis aux abysses, entre ouais. autres, la commission Charbonneau. Tu sais, tout le monde rit de moi, mais c'est quelque chose que j'ai suivi avec attention.
Oui.
Beaucoup trop jeune, honnêtement, c'est sûr.
Oui, parce que ça fait 14 ans, donc tu avais 16 ans
ouais.
à l'époque.
Je suis un peu toquée d'actualité. Puis de politique depuis
ouais,
toujours. Là. Il y a des amis qui me demandent si j'ai eu une jeunesse, mais ça pour dire que dans le contexte de la commission Gala, on s'entend, là, on
oui.
ne va pas tout de suite tomber dans la corruption ou autre.
C'est intéressant
mais...
de tomber dans le contexte, de retomber,
oui,
devrais-je, dans le contexte
de la
commission.
J'ai hâte de les entendre.
Ah, moi aussi, ça va être un podcast à ne pas manquer ce soir, 18h, une émission de Marceau le soir qui va être disponible également sur le blvd.fm. On est disponible aussi sur twitch.tv/blvd/fm et évidemment sur notre application blvd102.1. Avant, Pascal, qu'on passe à Rémi Villemur qui s'en peut plus de nous parler de déficit de 100 milliards puis d'investissement de la Caisse de dépôt, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans l'actualité?
J'y vais rapidement, mais collision à Saint-Augustin des morts, il y a un motocycliste qui a perdu la vie. C'est absolument tragique, il y a 65 ans, enfin, il y avait 65 ans. Il a été victime d'un face-à-face sur la route Grand Capsa. Ça, c'est entre Pont-Rouge puis Saint-Augustin, là. Ça s'est fait ce matin autour de 6 heures, donc à proximité de cette intersection-là de la route Fossambeau. On a un peu d'informations comme quoi l'un des conducteurs aurait dévié de sa trajectoire, s'est retrouvé en sens inverse et ça a causé la collision. Les circonstances, c'est un peu nébuleux encore. Par contre, là, on est là-dedans, ouais. On est en enquête. L'automobiliste, lui, c'est 56 ans. Il est évalué par les ambulanciers. Il avait un choc nerveux. Tronçon de la route Grand Caspa qui a été fermé longtemps à la circulation. Dévié de la voie. On se demande pourquoi. On espère que c'est pas ce qu'on pense. Récidiviste ivre au volant avec un enfant à bord.
Ça n'a pas de sens.
Puis récidiviste du genre, il a causé la mort de sa conjointe en 2001. C'est Sébastien Proulx. Dans cette collision-là de 2001, il conduisait en état d'ébriété. 20 ans plus tard, il est capté. Il se retrouve encore ivre au volant et il y a un enfant dans son auto. Il a 48 ans. Il a reconnu avoir conduit un véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool lundi. Ça a été au Palais de justice de Québec. On revient en 2024, un peu avant 13h, où Proulx se rend dans un commerce de location U-Haul. C'était sur la rue Armand-Viau à Québec. Puis il essaie d'accéder au stationnement. Il exige un code pour le stationnement puis pour se rendre au casier du service là, d'entreposage. Puis il y a un employé du commerce qui constate que c'est bien difficile entrer le dit code, mais pas difficile, la machine m'aide pas, difficile du genre, je suis intoxiqué. Puis là, sa conduite se veut erratique aussi. On communique avec les services d'urgence. Félicitations à cet employé-là. On a signalé le comportement de l'individu puis on a précisé qu'il y avait un enfant à bord. Donc, on est dans ce dossier-là au Palais de justice de Québec. Il y avait plus du double de la limite permise dans
c'est
son
fou.
Sang.
Avec un enfant à bord alors qu'il a vécu l'irréparable en 2001, c'est signe que l'alcoolisme, tu es alcoolique toute ta vie, tu peux prendre des mesures justement pour te soigner. Malheureusement, cet individu-là ne l'a pas fait ou n'a pas réussi.
Ça peut être effectivement une dépendance, maladie, mais le manque de jugement, par contre, ça, c'est un choix.
Entièrement d'accord avec toi.
Des choses.
Hey, merci de me remettre. On a dit qu'on ne mettait pas de gamblets là, dans l'intro.
Ouais,
là,
ouais.
Merci de me remettre à jour.
Pour l'enfant, en plus.
Merci d'avoir enlevé tes gamblets.
Dans le dossier de la fillette qui aurait été retrouvée là, après 3 jours là, du côté de l'Ontario, on vient de parler d'un dossier important.
Exactement.
On a eu une conversation avec un avocat criminaliste, mais la mère veut déjà sortir de Pinel. Elle a été reconnue donc criminellement responsable hier. Et là, on dit qu'elle veut être libérée dès maintenant de l'Institut Philippe Pinel. Elle est détenue là-bas. Elle est une Montréalaise de 34 ans. Elle était, entre autres, responsable, reconnue non criminellement responsable de négligence criminelle et d'abandon d'enfants. Et voilà. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'elle se trouve dans l'Institut depuis juillet et elle estime qu'elle doit sortir. Elle veut bénéficier de sorties graduelles, à commencer par le corridor, la cour de l'Institut. Et il y a un comité scientifique qui va la juger ou non adéquate à faire ça. Dans l'actualité aussi, là où je me disais, Colin, il y en a donc bien des dossiers, Pierre-Hugues Boisvenu est dans l'actualité pour tout à fait d'autres dossiers pour lesquels on le connaît.
Oui, un dossier de
baiser non consenti.
Ouais, c'est ça, baiser non consenti. Ouais,
je voyais que tu te demandais comment le dire.
Ouais, j'allais dire, c'est-tu des attouchements sexuels? Non, là,
ben,
je cherchais...
oui, c'est un baiser
oui,
non consenti.
Aussi, hein, c'est ça, parfait. Je cherchais juste le bon terme. Je voulais pas me mettre les pieds dans les plats.
C'est pour ça que je venais à ta
merci
ressource,
d'être venu à mon secours.
C'est l'ancien sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui est connu pour son engagement, vous savez, dans la cause des droits des victimes d'actes criminels après l'assassinat d'une de ses filles. Et là, il doit payer 19 000 $1 000 à une femme qui l'a embrassée sans son consentement et qui poursuivait pour diffamation. Donc, des gestes en 2013 qui lui ont été reprochés. On dit qu'il a rendu visite à Sylvia Ribeiro et il l'avait rencontrée un an plus tôt dans un cadre d'échange sur la défense des droits des enfants agressés et assassinés. Peu importe, au cours de cette visite-là, c'est là où le bas blesse. Le demandeur a enlacé la défendresse et l'a embrassée. Il a utilisé sa langue sans le consentement de celle-ci. Et pendant quelques secondes, ça s'est fait. Donc, c'est un geste qui constitue un contact sexuel non consensuel, soit une agression sexuelle et par conséquent, une faute civile. C'est ce qu'on a lu dans la décision rendue par la juge. Lui a dit « Je m'excuse, j'aurais dû faire preuve de plus de retenue. » C'est à partir de 2017 que Mme Ribeiro a écrit plusieurs textes sur Internet où elle a dit qu'un sénateur qui avait posé des gestes sexuels envers elle et elle avait intenté une poursuite civile de 250 000 $ En fait, lui avait intenté une poursuite contre elle de 250 000 $ Finalement, ça s'est retourné contre lui et il devra payer.
Merci beaucoup, Pascal CV. On va de ce pas rejoindre l'excellent animateur au 99.5 de l'émission de fin de soirée à 18h, Rémi Villemur, et également le samedi matin de 8h à 10h. Rémi, comment ça va?
Ah, ça va très bien. Il fait tellement beau.
Oui, il fait beau aussi à Montréal. La vie est belle. On se la coule douce.
Ah, on se la coule très douce. 27 degrés ressentis aujourd'hui à Montréal.
Wow.
J'ai vraiment l'impression que l'automne ne s'en vient pas tout de suite, même si l'automne, c'est ma saison préférée, moi.
Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans l'automne? L'air frais à respirer, j'imagine?
Mais j'aime le fait que c'est court, donc on est obligé d'en profiter. Alors qu'au Québec, les saisons s'installent de façon trop durable, donc on dirait qu'on... Assez rapidement, on se tanne, la magie, elle ne peut pas durer 6 mois, donc elle part, et là, on voit juste les inconvénients. L'automne, c'est un concentré de joie et de beauté.
On dirait que tu parles de ne pas prendre pour acquis son conjoint ou sa conjointe dans la vie, si on veut une relation épanouie.
Et, il faut pas essayer d'interpréter ce que je viens de dire au-delà.
Ah, tu aurais pu embarquer, Rémi, puis dire oui, effectivement, faut rien prendre pour acquis, faut pas se plaire et s'habituer à la présence de l'autre. Tu aurais pu être aussi romantique dans tes propos pour les 4 saisons. Je suis déçu.
C'est vrai, je vais pas là-dessus.
Rémi, est-ce que tu vas user de romantisme pour parler du déficit de 100 milliards de dollars du gouvernement fédéral de Mark Carney, cet économiste au grand CV, parce que... Ouf, d'après moi, il va faire chaud cet automne dans la Chambre des communes, même s'il fait frisquet dehors.
C'est incroyable, cette affaire-là. Tu sais, Mark Carney, je rappelle quand même, parce qu'on s'est rendu compte la semaine passée qu'on est plus des Américains que des Canadiens, hein, parce que l'assassinat de Charlie Kirk nous fait vibrer davantage que n'importe quel événement qui pourrait survenir au Canada. En fait, la dernière fois qu'on avait autant vibré au Québec, c'était quand Donald Trump avait été victime d'une tentative d'assassinat. Ah non, c'est vrai, il y a eu l'élection de Donald Trump. Vous voyez un peu où je m'en vais. Mm-hmm. Quand c'est américain, on trippe. Et on oublie que notre premier ministre, Mark Carney, il s'était plein de promesses hein, quand il s'est présenté. Goldman Sachs, Harvard, Oxford, la Banque d'Angleterre, le gars qui vaut des millions, le comptable, le déficit va être de 60 milliards. Eh bien là, c'est 100 milliards. La dette fédérale... Il y a un site là, sur Internet, le site de l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, qui la calcule en temps réel. Donc, vous avez un compteur là, qui n'arrête pas. Aux dernières nouvelles, 1390 milliards. Donc, on a... Ah, puis il y a 236 millions aussi hein, là-dedans. On ajoute 100 milliards pour un exercice financier. Et à chaque fois, on dirait que c'est tellement gros qu'on ne comprend pas c'est quoi. Ça nous dépasse. On est englouti par l'ampleur de ce que ça représente. Donc, on hausse des épaules, on soupire, on sursaute plus. Alors que 100 milliards de dollars juste pour un exercice financier, ça veut dire plein de programmes sociaux qui seront plus abordables, donc qu'on va devoir interrompre. Ça veut dire que les jeunes qui n'ont pas le droit de vote encore, eux autres, ils n'ont pas décidé dans quel monde ils allaient vivre, mais on décide à leur place. Donc, les enfants de 12, 13, 14 ans et les plus jeunes, eux, on les voit, ils sont joyeux, ils rient, ils s'amusent, mais ils ne savent pas ce qui les attend. Hein? C'est un monde où tout ce que nous, on s'est permis de s'offrir, eux ne pourront plus se l'offrir. Donc, moi, je reviens avec une idée qui n'est pas la mienne. C'est pas moi qui ai inventé ça. Moi, je pense qu'on est rendu là. D'autres pays le font. Je les nomme la Suisse, l'Allemagne et le Danemark. Il faut inscrire d'une façon ou d'une autre dans la Constitution le fait que ça devrait être pas permis de faire des budgets avec des déficits. Donc, la Suisse est la plus sévère en matière de déficit Et sa dette représente juste 17 % de son PIB, alors qu'au Canada, on est plus dans l'ordre du 50 % en montant. 60 % en 2021, ça avait baissé à 50 % en 2022, et là, ça va repartir en haut, tout le temps avec des excuses, hein. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, c'est les tarifs, c'est le chômage, c'est le manque d'investissement étranger. Donc, on s'en lave
C'est
les
la
mains toujours. Donc,
COVID.
la COVID aussi. Donc, mais là, on est rendu là, je pense. Il faut que ce ne soit pas possible pour un gouvernement de faire un budget déficitaire. Ça ne veut pas dire que la dette va forcément se résorber et redescendre à zéro, parce que des fois, on ne contrôle pas ce qui arrive dans un budget. On fait un budget, on le met sur la table, on le fait approuver par la Chambre des communes, et ah, il y a des imprévus. Mais on ne peut pas, je pense, d'un point de vue constitutionnel et d'un point de vue de justice sociale, pour ceux qui n'ont pas encore le droit de vote puis qui s'en viennent, de prévoir des déficits. Ça ne devrait pas être possible de faire ça.
En effet, t'as entièrement raison. Il y a un auditeur qui nous écrit, ça correspond à 2 500 $ par citoyen. T'sais, ça n'a pas de sens. Ça correspond à peu près à 10 % de la dette qu'on a actuellement pour un exercice financier. J'adore ton idée. Alors, à ce moment-là, si on la pousse plus loin, c'est que le pays aurait le droit de faire un déficit seulement s'il vit des situations exceptionnelles dans l'année même.
Dans l'année même, oui, exactement. Donc, on ne peut pas prévoir l'imprévu. Ça s'appelle l'imprévu parce qu'on ne peut pas le prévoir. Donc, moi, je ne dis pas qu'un gouvernement qui s'endette devrait être absolument foutu dehors. Ils sont déjà critiqués de façon assez raisonnable, je le pense, et il faut continuer de le faire. Mais on ne peut pas mettre dans l'exercice financier un déficit. Il y a quelque chose d'absolument absurde là-dedans. On n'envoie pas du monde à Ottawa nous endetter davantage. On les envoie gérer une dette. Et si possible, la résorber. Et d'autres pays le font. Je veux dire, le Danemark, on n'arrête pas de dire, ah, les Danois font ci, les Danois font ça, les Allemands font. Ah, les Suisses, eux autres, ils gouvernent par référendum. Bon, ben, inspirons-nous des très bonnes idées qui viennent d'ailleurs. L'Allemagne faisait ça aussi. D'ailleurs, l'Allemagne le faisait jusqu'à il y a quelques mois et ils ont décidé de modifier leur constitution parce qu'ils se rendaient compte que ben, c'était plus vraiment possible en situation de guerre. Mais eux autres, ils sont en guerre, OK? C'est une vraie guerre, là, OK? Parce qu'ils fournissent des armes, puis il y a l'appui à l'OTAN. Donc, on est rendu là. On est rendu là, puis ça donnerait un exemple aussi à la face du monde. Tout le monde regarderait le Canada et dirait, waouh, voilà, voici des gens responsables, voici des gens qui ont compris qu'une dette, ça pénalise avant toute chose les plus jeunes et surtout ceux qui n'ont pas le droit de vote.
Parce que Rémi, Mark Carney, c'est la continuité de Justin Trudeau et cette continuité-là va nous amener exactement dans le même mur que le Québec est rentré, c'est-à-dire la décote.
Ben, la décote, absolument. Puis, et ça, il faut l'accepter, ça. Puis pour l'accepter, il faudrait peut-être recommencer à s'intéresser à ce qui se passe au Canada. Le réalisez-vous à quel point, nous, on travaille dans les médias, hein, donc on n'est peut-être pas les bons juges de ça, mais moi, je parle aux gens autour de moi et personne ne me parle de politique fédérale, personne ne me parle de Mark Carney, personne ne sait que hier, c'était la rentrée, que Carney et Poilievre se sont un petit peu pognés. Personne ne s'intéresse à ça parce qu'on est redevenus des Américains. Donc, maintenant, ça permet à nos élus à Ottawa, puis je dis pas que c'est intentionnel de leur part, je place pas là le vice dans l'esprit de quiconque, mais ça leur permet d'échapper à beaucoup d'attention médiatique. Eux autres, en ce moment, ils sont heureux, mais comme des balais, hein, ça c'est une expression de ma mère. Ils sont heureux comme des balais. Eux autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis il n'y a personne qui en parle ou presque, à part des journalistes qui font leur travail, mais qui composent avec, hein, l'impératif économique. Qu'est-ce que nos boss nous disent? Ben, il faut générer du clic. Donc, qu'est-ce qui génère du clic? Ben, c'est ce qui se passe avec Charlie Kirk, c'est ce qui se passe avec Donald Trump. Ne leur donnons pas ce cadeau-là.
C'est
Revenons.
le. Ouais, je comprends, c'est le sensationnalisme de la nouvelle dans lequel on est pris à l'heure actuelle et que ce soit dans nos médias traditionnels comme les médias sociaux.
Ouais, puis honnêtement, je veux dire, une dette, là, c'est vraiment pas un sujet sexy. Je veux dire, quand tu prépares une chronique sur la dette, là, tu te surprends à bâiller une couple de fois. Il faut que tu prennes un café, même si c'est pas recommandé d'en prendre après-midi.
Imagine,
Puis
toi,
c'est
t'es
la même chose pour les
passionné, puis t'analyses ça. Imagine pour nos auditeurs, tu sais, qui écoutent ça, puis qui en plus, les montants sont tellement immenses qu'on n'arrive pas à le comprendre dans notre tête, puis on perd un petit peu d'intérêt parce qu'on se dit, voyons, c'est bien trop gros comme montant.
Ben, on ne comprend pas c'est quoi.
Ouais.
1390 milliards. C'est parce que réalisez-vous ce que c'est, là.
Non.
Je veux dire, Donald, Elon Musk vaut quelque chose comme 300 milliards. Puis même 300 milliards, je me dis, attends une minute, ça veut dire qu'il y a 300 fois 1 milliard. 1 milliard, c'est 1 000 millions. Mais là, on a une dette de 1390. Ah, ben là, si on rajoute 100 milliards, ben,
C'est
c'est pas si pire que ça. 100 milliards de dollars!
Non, en effet. Je saute à ton deuxième sujet qui est la caisse de dépôt et j'ai adoré que tu me proposes ça comme sujet. Tantôt, tu as parlé de l'Institut économique de Montréal. J'ai déjeuné avec Gabriel Giguère, qui est un de nos collaborateurs, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal, et je lui avais posé cette question-là. La caisse de dépôt doit-elle investir davantage au Québec? Il m'a fait comme réponse, si je te parle dans mon rôle d'Institut économique de Montréal, je vais te dire, l'important, c'est le rendement, mais... Dans mon fort nationalisme, je te dirais la caisse de dépôt a une responsabilité morale d'investir au Québec. Tu te situes où? Es-tu le Gabriel de l'Institut économique de Montréal ou le Gabriel nationaliste?
Moi, je suis le Gabriel nationaliste et je reconnais Gabriel Giguère qui est tiraillé entre plusieurs, plusieurs convictions. Non, mais on le salue d'ailleurs. La Caisse de dépôt, c'est fondée en 1965 par Jacques Parizeau. À la base, ça a toujours été ça. Hein. L'objectif de la Caisse, même s'ils ont changé leur mission là, dans leur charte en 2005, c'était de faire grossir le bas de laine des Québécois, mais c'est ajouté quand même, tout en investissant dans l'économie du Québec. Donc oui, on place ça à la fin de la mission, puis ça, c'est une façon à peine voilée de dire ça passe en deuxième, mais c'est possible de faire les deux. Puis vous savez, moi, je suis pas un critique, il y a beaucoup de gens qui critiquent énormément la Caisse parce qu'elle annonce ses résultats financiers deux fois par année et à chaque fois, elle annonce un rendement, tu sais, bon là, pour les six premiers mois de 2025, par exemple, c'était un peu moins de 5 %. Là, les gens, ils disent, ben voyons, donc, le S&P 500 est à 18-19, eux autres, ils font du 4-5 %. Non, non, la Caisse de dépôt a une mission presque impossible. Elle gère, par exemple, un fonds de retraite. Fait qu'un fonds de retraite, tu ne mets pas ça dans des hein, quand ton conseiller financier te demande, t'es-tu check-in ou t'es un petit peu prudent? Ouais. Comment t'es, toi,
t'es
prudent?
Modéré c'est aventurier.
Aventurier, bon, ben la Caisse de dépôt, quand elle gère un fonds de retraite, c'est sûr qu'elle ne met pas cet argent-là dans la S&P 500. Elle met ça dans des obligations d'épargne, dans des trucs qui avancent tranquillement. Donc, son rendement est évalué en fonction des différentes missions qu'elle a. Elle est dans l'immobilier, par exemple, comme elle est dans des obligations d'épargne, comme elle gère des fonds de retraite qui sont pour des gens qui ont 30 ans, comme elle gère aussi des fonds de retraite de gens qui ont 70, 80, 90 ans. Donc, moi, le 4,5 % de rendement en 6 mois ne me dérange pas. Par contre, d'apprendre ce matin que depuis 11 ans, le poids du Québec dans le portefeuille de la Caisse de dépôt a chuté de 25 %. Il est désormais rendu à 16,6 %. Ça veut dire que pour 1 $ chaque dollar de la Caisse de dépôt, elle en gère 500 milliards, il y a 16 sous qui sont de l'argent au Québec. Ça, c'est pas normal.
Ça fait pas de sens, ça, pour moi, Rémi, qu'on ait aussi peu au Québec. Et je m'explique. C'est parce que, pour moi, la Caisse de dépôt a une responsabilité morale comme le gouvernement. On critique le gouvernement qui investit dans des entreprises étrangères et qui n'aide pas nos PME. Je vais faire la même critique pour la Caisse de dépôt.
Ben, écoute, moi, je vais te reprendre. Moi, je pense pas qu'elle a de responsabilité morale. Moi, je pense qu'elle a un mandat. Si elle veut changer de mandat, qu'elle le fasse. OK? Et en attendant, son mandat, c'est d'investir dans l'économie du Québec tout en faisant un rendement. Ben, c'est possible de le faire. Moi, je m'excuse, mais quand j'apprends que tu investis à Hong Kong dans une start-up, il n'y a pas une start-up ici que ça irait bien. Il n'y a pas des projets ici. On est quoi? On est des nuls ici? Je pense pas, là. Sincèrement, je pense pas qu'on soit des nuls. Donc, il n'y a pas de responsabilité. Si on leur dit, vous avez une responsabilité morale, c'est un peu comme si on leur disait, écoutez, il faut accepter de perdre un peu d'argent, il faut économiser au Québec. Moi, je leur renverse ce discours-là. C'est possible de faire de l'argent ici. C'est possible de croire en des entrepreneurs, de les accompagner parce qu'ils font ça aussi, soit dit en passant. Ils les accompagnent, ils les coachent, ils leur trouvent les meilleurs repères, les meilleures ressources. Donc, c'est possible de faire ça. Les investissements de la Caisse de dépôt au Québec qui sont rentables, la plupart en tout cas, il y en a que c'est Pouet-Pouet, Nordvolt par exemple, mais on peut lancer un signal contraire. Puis, on peut aussi revoir certaines façons de faire, certaines stratégies organisationnelles. À la Caisse de dépôt, on est très, 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 très bien payé. On se dit souvent que c'est parce que ces gens-là iraient travailler ailleurs. Pas si convaincu de ça, moi, honnêtement. Des fois, je trouve que le chantage, hein, c'est pas, on peut le combattre également. Donc, la Caisse de dépôt devrait retrouver un portefeuille qui est majoritairement, en tout cas, peut-être pas majoritairement québécois, mais qui remonterait à du 25, 26, 27, 30 % au Québec. Moi, je pense que c'est possible.
Moi, je suis d'accord avec toi que c'est au-delà de la responsabilité morale. En effet, c'est un mandat qu'on doit se donner. On a un auditeur qui écrit par texto. « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais des lions électriques, des taïgas de ce monde? » Je pense qu'on peut autant se tromper au Québec qu'à Hong Kong. Je me trompe-tu?
Le portefeuille, la section immobilière de la Caisse de dépôt, donc ils ont des immeubles dans des villes comme New York, Chicago, tout ça, ça ne va pas super bien parce qu'à cause du télétravail, les gens ne vont plus au bureau. Donc, les propriétaires d'immeubles commerciaux ont vu la valeur de leurs immeubles baisser. Il n'y a personne qui est allé dire, il faudrait arrêter d'investir ailleurs parce qu'il y a une crise immobilière dans le monde. Non. C'est sûr que la Caisse de dépôt s'est plantée. Elle va se planter. Elle va continuer de le faire. C'est ça que ça s'appelle prendre des risques. Hein? Puis des fois, on a un plan financier devant nous, puis c'est très intéressant, puis pour des raisons en X, Y, ça plante. Donc, on ne peut pas, là, et en tout respect avec l'auditeur, décider qu'on n'investit plus au Québec parce qu'il y a eu des échecs. Il va y en avoir d'autres.
Qui est mieux de prendre des risques, la Caisse de dépôt ou le gouvernement?
Bien, je pense que c'est mieux que ce soit la Caisse de dépôt que le gouvernement. Après, moi, vous savez, quand le gouvernement a pris un risque dans Northvolt, je n'ai pas été parmi ceux qui disaient, oh, si ça plante, va falloir, tu sais, qu'on arrête de faire ça. Moi, j'aime une société qui prend des risques. Hein, la nouvelle présidente d'Hydro-Québec est allée dire, justement, il y a quelques semaines, il faut qu'on réapprenne à prendre des risques au Québec. Il faut qu'on réapprenne à concevoir ce que c'est que le pensable. Parce qu'on nous dit, c'est impensable. Voyons, c'est pas réaliste. Elle dit, ben, le réalisme, ça s'arrête là où on a décidé collectivement, et ça part de notre tête, qu'on s'arrêtait là. Donc, la Caisse de dépôt, moi, je suis pour qu'elle continue de prendre des risques. Je suis pour que le gouvernement. Mais j'aime ça quand ça marche, par contre. Ça, je vous avoue que ça me fait plus plaisir quand
Ouais,
ça
c'est
marche.
ça. Ça prend un pourcentage de réussite plus élevé. Ça prend une bonne moyenne au bâton, là. Comme un bon
Ouais.
frappeur dans le baseball majeur, il n'y a pas de doute dans mon esprit. Rémi Villemur, merci infiniment pour cette chronique-là. Je retiens plusieurs choses, mais la chose la plus importante que je retiens pour nos auditeurs, c'est concentrez-vous et consacrez de l'énergie aux informations politiques qui vous concernent. Et là, on va être dans un tournant historique, pas nécessairement positif, d'un déficit record à 100 milliards de dollars. Il faut s'y intéresser au-delà du clic sensationnaliste sur Donald Trump qui va signer un autre décret.
Oui, très bien dit.
Merci Rémi, merci. C'est très pertinent tes chroniques. On fait une courte pause ici à Boulevard 101 et par la suite dans l'émission On en jase. Pascal, on va parler avec Éric Lacroix, vice-président et chef stratégique au niveau de la firme de sondage Somme. Sondage ce matin qui a paru dans le Soleil. Perte d'appui pour le troisième lien. Appui stable pour le tramway. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa maman vient de sortir en disant faut arrêter de dépenser dans le tramway. Qu'est-ce qu'Éric Lacroix interprète de ces chiffres-là en début de campagne électorale municipale? Je suis convaincu que ça va être intéressant. Tu es d'accord avec moi?
Je suis très d'accord, je veux comprendre. Mais assurément, un sondage, moi, je me dis, c'est volatile.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce sondage-là? C'est ça
Exact.
qu'on va aller explorer.
En plein ça. C'est ce qu'on va aller explorer à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Restez avec nous.
Je vous parle souvent d'humoriste parce qu'il fait beau. On est encore en saison estivale. Puis Rémi Villemur, avec qui on vient de parler, dit « Hey, c'est 27 à Montréal. Oh, nous aussi, on a une belle température. Jeff, c'est au-dessus de 20 aujourd'hui à Québec. Il y a du soleil. » Honnêtement, je vous envie un peu. Puis je vais faire ça, moi. Je vais aller dîner après l'émission. Je vais aller profiter de l'extérieur. Mais il y a aussi Noël qui s'en vient. Je m'excuse. Restez là. Restez là. Restez bien branchés. Vous allez être contents que je vous en parle, même si on est en septembre, parce que c'est le temps de penser au party de Noël. Hein? Les disponibilités, ça s'envole rapidement. Puis au Maurice, bien, c'est l'endroit idéal. Tu as le complexe de l'hôtel Maurice aussi pour des rencontres corporatives, des réunions de groupe, des rassemblements d'affaires. On a l'hôtel, on a le restaurant, on a le cigar lounge, puis on a le speakeasy. Tu veux quoi de plus? Tu as tout finalement au Maurice, en plein centre de la ville, là où ça bouge encore en hiver, où c'est merveilleusement décoré sur Grande Allée. Tu veux absolument aller dans le complexe de l'hôtel Maurice avec ta gang pour le party du temps des fêtes. C'est l'endroit idéal pour ces rencontres-là. Donc, si tu veux réserver, c'est maintenant. Maintenant pour ton party de Noël. Maintenant pour une rencontre d'affaires aussi dans le temps des fêtes. Va sur le site web du Maurice pour faire ta réservation au hôtelmaurice.ca. Je te jure, tu ne regretteras pas.
Peut-être cesser de donner des formations inadéquates à le chauffeur. Puis je dis bien le chauffeur parce que souvent ces gens-là sont le résultat de ce qu'on appelle la magouille en bon français. Eux autres, ils arrivent ici, ils aspirent à une meilleure vie. On leur donne peut-être 1000 piastres, 1200 piastres par semaine. Ils deviennent, par la force des choses, tu sais, ils adorent le métier, tout ça, mais ils sont pas formés. Donc, la journée où ce que l'Ontario formera ses chauffeurs adéquatement, ben, on aura une victoire assurée.
un réel problème de société en ce moment. Si on retire 90 jours, 485 chauffeurs sur nos routes, on s'entend que l'économie roule pas comme d'habitude, c'est clairement un point important. Quand Benoît Thérien parle, on enregistre qu'il y a aussi des gens qui se font amener ici puis un petit peu exploiter de ce qu'on comprend. Oui. Suite à ça, ils arrivent sur nos routes, il y a des erreurs de conduite, il y a énormément de gens qui sont mis à risque. La santé et la vie des gens le sont aussi. On entend des propos de Benoît Thérien, si vous voulez reprendre le dossier complet dans le point de Max ce matin, que c'est vraiment un stratagème. On précise que ça semble être un stratagème. Et là, les chauffeurs qui sont targetés, les 185, on espère que ça mène, cette enquête-là, à plus, qu'on les enlève finalement des réseaux routiers, qu'il y ait des sanctions aussi pour ces employeurs-là. Mais moi, j'ai une question qui me brûle constamment, c'est pourquoi je fais des médias? C'est pourquoi il faut que ça se rende dans les médias pour que ça devienne un enjeu de société?
C'est très absurde. C'est... Il n'y a personne au niveau politique, à part les partis d'opposition, qui s'intéressent au dossier. Les partis au pouvoir, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux, ils s'en sacquent, ils s'en lavent les mains, mais les pertes de vie qu'on a ou les blessures ou les blessés qu'on a présentement, ben faut attribuer la faute à l'inaction de ces partis politiques-là qui font absolument, mais absolument rien. Pas qu'ils le savent pas, ils sont au courant, là. Mais il n'y a pas personne qui a de l'intérêt à bouger là-dedans.
Et tu sais quoi, Pascal? La meilleure façon de faire bouger les politiciens, c'est d'écouter l'émission On en jase le midi. De midi à 14h, parce qu'on vous parle de l'actualité en temps réel et on tente de faire bouger les choses. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Le retour de Gravel suit avec Denis, Véro et Audrey. Pascal, on se donne rendez-vous demain midi?
Sans faute, je serai
là. Excellent. Ciao, bye, la gang. À tantôt.